L'évangile que nous venons d'entendre est dans la continuité de celui de la semaine dernière, qui, vous vous souvenez, Jésus commençait par dire qu'il était venu accomplir la loi, et il prend donc un certain nombre de points de la loi pour expliquer comment on peut l'accomplir, et il nous montre comment il faut aller loin dans cette compréhension de la loi. Et à cette occasion-là, j'ai pu vous exposer que la seule solution pour pouvoir accomplir vraiment la loi à la suite de Jésus, c'est de se mettre dans une véritable docilité au Saint-Esprit, de ne pas être dans des préceptes à cocher, mais bien au contraire à se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Voilà. Cet évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui continue, mais nous n'en entendrons pas puisque nous allons rentrer en carême dimanche prochain. Il continue avec une évocation d'autres points de la loi, l'aumône, la prière, le jeûne. Alors il se trouve qu'en entrant en carême, c'est exactement les points qui vont nous être proposés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour que nous puissions faire un bon carême. Voilà, l'évangile que nous venons d'entendre se termine par ces paroles. « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est impossible aux hommes. Nous ne sommes pas Dieu, et nous savons en plus que nous sommes vraiment en décalage, nous sommes pécheurs, nous en avons le témoignage tous les jours dans notre propre vie, et si ce n'est pas dans la nôtre, parce que nous sommes aveugles parfois, nous le voyons dans la vie des autres. Donc il faut se dire que nous, ça doit être pareil. Hein, quand on a tendance à critiquer les autres ou à voir les défauts des autres, il faut se dire « Moi, je ne dois pas être plus fin, simplement, je ne m'en aperçois pas. » Alors, pour devenir parfait comme votre Père Céleste est parfait, encore une fois, il nous faut entrer dans la docilité au Saint-Esprit. Si la semaine dernière, je vous ai invité à entrer pour pouvoir entrer dans cette docilité au Saint-Esprit, je vous ai invité à plusieurs points d'attention. Hein, déjà, la gratuité du don, de sortir du calcul, d'être donné et dans la gratuité. On donne et on n'attend pas en retour le retour. C'est un point très très important, la gratuité du don. Je vous ai aussi invité à entrer dans la pauvreté intérieure. Alors, quand je dis « je », en fait, c'est la tradition spirituelle de l'Église que j'ai transmise. La pauvreté intérieure, entrer dans un véritable dépouillement, ne plus rien avoir à perdre. Hein, quand on est pauvre, on n'a plus rien à perdre, c'est ça qui est pratique. Et donc, finalement, on ne risque plus grand-chose. Donc, entrer dans une véritable pauvreté intérieure, tout attendre de Dieu. Troisième aspect, c'était l'abandon. Et s'abandonner totalement dans les mains du Seigneur. Faire confiance en Dieu pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse agir dans nos vies par des inspirations intérieures, mais aussi par les événements de la vie. Quatrième point, c'était la prière. Évidemment, hein, si on ne prie pas, c'est difficile d'écouter le Saint-Esprit, de se laisser faire par le Seigneur. La prière nous met dans une bonne attitude, nous met sous l'influence de Dieu, et ça c'est positif, prière quotidienne évidemment. Enfin, j'ai terminé par deux autres points qui est lié au carême qui va s'ouvrir, une attitude de conversion, un désir de conversion, et particulièrement, là cette année, je vous invite à entrer dans la conversion en entrant dans la gratitude, en sachant rendre grâce au Seigneur pour ce que nous recevons. La conversion par la gratitude, et puis enfin, la formation, hein, puisqu'il faut évangéliser notre intelligence. Et parfois nous sommes négligents sur cet aspect, et donc il faut se former à la parole de Dieu et former à l'enseignement de l'Église. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer la même chose, c'est-à-dire vous proposer le chemin de la docilité au Saint-Esprit, pour accomplir, pour être parfait, pour devenir saint, autrement dit. Hein. Et il y a un chemin qui nous est donné, qui nous est proposé, et donc ce n'est pas les moyens, mais c'est plus le chemin qui nous est proposé. Et je vais l'exposer, comme je l'ai déjà fait il y a quelques années, en m'inspirant d'un jésuite, dans une homélie d'un jésuite, qui parle de trois étapes dans la vie spirituelle. Les trois étapes, c'est, je vous donne les titres, le saint, le pécheur, l'enfant, c'est les trois étapes, l'enfant étant l'attitude spirituelle la plus élevée et la plus parfaite. Le saint, alors je lis mon texte, hein, comme ça permettra que l'homélie soit pas trop longue. Le saint, c'est le bon chrétien, qui pense bien, qui pratique bien, qui se trouve plutôt bien, qui agit plutôt bien aussi. En résumé, qui se trouve plutôt saint, ou presque. Il se sait pardonner, il se sait sauvé par son baptême, il va parfois au sacrement de la réconciliation, et cela lui convient bien, ça lui suffit. Il voit quelques péchés, mais pas trop. Il ne se voit pas un trop grand pécheur. Il ne voit pas bien en quoi il doit changer, même s'il sait qu'il a besoin un peu de changer, mais il ne voit pas trop en quoi il doit changer. Puis finalement, toutes les excuses sont bonnes à ce chrétien pour rester dans cette attitude, une certaine suffisance chrétienne, une certaine justice, je ne fais pas de mal. Beaucoup pensent comme moi en plus. C'est un chrétien qui voit que beaucoup de chrétiens pensent comme lui, qu'il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas exagérer trop, hein, faut pas de délire mystique, c'est dangereux. Un certain confort de vie aussi, et un confort intellectuel. Enfin, pour reprendre l'expression qu'utiliserait notre prof François, une médiocrité assumée. Bref, le chrétien lambda, banal, qui ne fera pas de mal, mais qui ne fait pas de bien non plus, ou pas trop. Ça, c'est le premier aspect, première étape de la vie chrétienne. Je m'y reconnais personnellement, je vous rassure. Deuxième étape, le pécheur. C'est le chrétien, ce même chrétien, qui se voyait saint il n'y a pas si longtemps, ce chrétien qui découvre que malgré les apparences et ses impressions, il est profondément infidèle à Dieu. Il est égoïste, il est orgueilleux, il juge son frère facilement. Il est pécheur à travers de nombreux petits péchés et un certain nombre qu'il ne voit pas bien. Et aussi, pour reprendre l'idée de Sainte Thérèse de Lisieux, de la petite Thérèse, même s'il sait qu'il n'a pas fait de grands péchés, il prend conscience que ce n'est pas parce qu'il est bon, mais c'est simplement que, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, Dieu l'a protégé. Et il est profondément reconnaissant de cela. Ce qui fait qu'il sort du jugement de son frère. Il arrête de juger son frère. Il a conscience que sans Dieu, il ne fera rien de vraiment bien. D'ailleurs, il est tombé amoureux de Dieu. Il sait désormais que seule la miséricorde divine lui donnera une vraie dignité et que le vrai projet de sa vie est la sainteté, tout le reste n'étant que réussite partielle et même parfois ou souvent égarement. Cette attitude du pécheur, du chrétien qui se sent vraiment profondément pécheur et ayant besoin de la grâce de Dieu, le fait cheminer vers l'attitude de l'enfant, troisième étape. C'est le degré le plus parfait. Jésus nous dit, amen, amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il se voit pécheur, profondément pécheur, vraiment pécheur, mais pardonné. Il se voit désormais dépendant de Dieu, radicalement dépendant de Dieu. Il veut que Dieu conduise sa vie, dans les plus petits détails comme dans les plus grands. Et disant, il dit en vérité, Abba, Père. Il dit à Dieu, Abba, Père, notre Père. Laissant faire Dieu dans tous les détails de sa vie, dans un total abandon, radical abandon. Et accomplissant ainsi parfaitement la loi de Dieu. Il est profondément humble. Il se détourne de lui-même pour mettre Dieu au centre de sa vie. Il se détourne de ses propres besoins pour mettre Dieu au centre de sa vie. Et pour se soucier des autres, de ses frères, de son prochain. Non seulement il évite le mal, désormais, mais il fait le bien. Il est, comme dira une carmélite à la petite Thérèse de Lisieux, il est possédé par le bon Dieu. Ce qui caractérise le saint, et donc, au terme de ce parcours, ce qui caractérise le saint est donc la relation à Dieu, une relation particulière, filiale, de confiance absolue, d'abandon total. Ça, c'est la première chose, la plus importante peut-être. Et la deuxième chose, c'est que le saint souffre de ne pas être saint. Le saint souffre de ne pas être saint. Ça le tracasse et il désire l'être. Ainsi, nous pouvons rentrer en carême. Eh bien, si vous souffrez de ne pas être saint, eh bien, le carême est là et le Seigneur fera son œuvre dans nos vies. Amen.